Les mains bougent, les lèvres bougent. Les idées surgissent de ses paroles, et son regard est dévorant. Il est une île sur lui seul close. Description extraite du manuel de Muad'Dib par la princesse Irulan. Dans les lointains de la caverne, des tubes à phosphore jetaient une faible clarté sur la foule qui se rassemblait. Le regard de Jessica se porta sur les reflets qui couraient sur les murailles rocheuses, et elle se dit que cet endroit était plus vaste encore que le hall de rassemblement de l'école Bene Gesserit. Elle estimait à environ 5000 le nombre des Fremen qui se pressaient maintenant autour de la terrasse où elle se tenait en compagnie de Stilgar. Et il en arrivait d'autres. L'air était empli du murmure des voix. « Votre fils a été convoqué, Sayadina, » dit Stilgar. « Désirez-vous qu'il partage votre décision ? »
« Pourrait-il la changer ?»«
Il est certain que l'air avec lequel vous parlez vient de vos poumons, mais... »«
La décision demeure telle. »
Mais elle éprouvait des doutes. Elle se demandait si elle devait utiliser Paul comme une excuse pour échapper à une situation dangereuse. Elle devait également penser à cette fille qui n'était pas encore née. Ce qui mettait en danger la chair de la mère mettait aussi en danger celle de la fille. Des hommes approchèrent, portant des tapis roulés. Grognant sous le poids, ils déposèrent leur fardeau dans un nuage de poussière. Stilgar prit le bras de Jessica et l'entraîna jusque dans la corne acoustique qui formait la limite arrière de la terrasse rocheuse. Il lui désigna un banc taillé à même le roc. « La révérende mère va y prendre place, » dit-il. « Mais vous pouvez vous reposer jusqu'à ce qu'elle arrive. »«
Je préfère demeurer debout, » dit Jessica.
Elle regarda les hommes dérouler les tapis, les déployer sur toute la terrasse. Puis son regard revint à la foule. Il y avait bien au moins 10 000 personnes maintenant. Il en arrivait toujours. Dehors, sur le désert, elle le savait, le crépuscule rouge survenait déjà. Mais ici, dans la caverne, régnait un demi-jour perpétuel, une grisaille qui emplissait cette vastitude où tous ces gens étaient venus pour l'avoir risqué sa vie. À sa droite, un passage s'ouvrit dans la foule et elle vit s'approcher Paul, escorté de 2 jeunes garçons. Ces derniers avaient une attitude hautaine et troublante. Fronçant les sourcils, ils gardaient une main sur leur couteau. « Les fils de Jemis qui sont à présent ceux d'Ouzoul, » dit Stilgar. Ils prennent leur rôle d'escorte avec beaucoup de sérieux. Il sourit à l'adresse de Jessica. Elle devina l'effort qu'il faisait pour la détendre et elle lui en fut reconnaissante. Mais elle ne parvenait pas à détourner son esprit du danger qu'elle allait affronter.
« Je n'avais que ce choix, » songea-t-elle. « Nous devons agir rapidement pour assurer notre place au sein de ces Fremen. »
Paul monta sur la terrasse, laissant les enfants de Jemis en bas. Il s'arrêta devant sa mère, jeta un regard à Stilgar, puis dit « Que se passe-t-il ? Je pensais que l'on m'avait convoqué pour un conseil. » Stilgar leva la main pour intimer le silence à la foule. Puis il fit un geste vers la gauche où un autre passage s'était ouvert dans la foule. Shaini approchait. Une expression de douleur était peinte sur son visage d'elfe. Un mouchoir vert était noué sur son bras gauche, au-dessous de l'épaule. Le verre du deuil, songea Paul. Les deux fils de Jemis lui avaient appris cela indirectement, en lui disant qu'il ne portait pas de verre parce qu'il l'avait déjà accepté comme père gardien.
Es-tu le Liran al-Raïb ?
Lui avait-il demandé. Et Paul, à travers leurs paroles, avait décelé la présence du djihad, évitant de répondre à leurs questions en posant une autre, ce qui lui avait permis d'apprendre que Caleph, l'aîné, avait 10 ans et qu'il était le fils naturel de Jeff. Orlop, le plus jeune, le fils de Jemis, avait 8 ans. La journée avait été étrange. Les deux enfants étaient restés auprès de lui à sa demande pour éloigner les curieux et lui laisser ainsi le temps de ramener le calme dans ses pensées et ses souvenirs prescients, et de décider d'un moyen de repousser le djihad. Maintenant, tandis qu'il contemplait la foule aux côtés de sa mère, il se demandait de nouveau si quoi que ce fût pourrait empêcher la sauvage ruée des légions fanatiques. Shaini s'approchait de la terrasse,
suivie à distance par 4 femmes qui emportaient une autre sur une litière. Jessica, ignorant Shiny, concentrait toute son attention sur la femme dans la litière. Elle était vieille, usée, ridée, drapée dans une robe noire dont le capuchon, rejeté en arrière, révélait un chignon gris et un cou décharné. Doucement, les femmes qui portaient la litière déposèrent leur fardeau sur la terrasse et Shiny aida la vieille femme à descendre. Ainsi c'est là leur révérende mère, songea Jessica. La vieille en noir s'appuyait lourdement sur l'épaule de Shiny en s'avançant vers Jessica. Elle évoquait un fagot de vieilles branches enveloppées dans un tissu noir. Elle s'arrêta, leva les yeux et demeura un long moment silencieuse avant de déclarer dans un chuchotement rauque
« Ainsi, c'est vous. La Shadowed Mapes a eu raison d'avoir pitié de vous. »
La vieille tête oscilla sur le cou maigre. Jessica répondit d'un ton sec, méprisant. « Je n'ai besoin de la pitié de personne. »
« Cela reste à prouver, »
souffla la vieille. Avec une vivacité surprenante, elle se retourna et fit face à la foule.
« Dis-leur, Stilgar. »
« Il le faut. »
« Nous sommes le peuple de Mysère. Depuis que nos ancêtres se sont enfuis de Nilotic à Luruba, nous avons connu la mort et la fuite. Les jeunes vivent afin que notre peuple ne meure point. »
Stilgar prit une profonde inspiration et fit 2 pas en avant. Le silence s'établit dans toute l'immense caverne. Il y avait maintenant 20 000 Fremen qui attendaient, immobiles, pétrifiés. Jessica, soudain, se sentit petite et vulnérable.
« Cette nuit, » dit Stilgar, « nous devrons quitter ce siège qui nous a abrités pendant longtemps pour aller loin dans le sud. »
Sa voix semblait gronder au-dessus des visages dressés, réverbérée par la corne acoustique. Dans la foule, il n'y eut pas un murmure.
La révérende mère me dit qu'elle ne pourrait survivre à un autre Hajra, reprit Stilgar. Nous avons déjà vécu sans révérende mère, mais cela n'est pas bon pour un peuple qui cherche un nouveau foyer.
À présent, des mouvements naissaient dans la foule, des murmures et des regards inquiets.
Il se peut qu'il n'en soit pas ainsi. Notre nouvelle Sayadina, Jessica de l'art étrange, a consenti à se prêter au rite. Elle va essayer de passer l'épreuve afin que nous ne perdions pas le soutien de notre révérende mère.
Jessica de l'art étrange, songea Jessica. Elle vit le regard de Paul. Elle lut toutes les questions qu'il y avait dans ses yeux. Mais sa bouche était rivée par toute l'étrangeté qui les entourait. « Si je meurs dans cette épreuve, qu'adviendra-t-il de lui ?» se demanda-t-elle. Et à nouveau, les doutes affluèrent dans son esprit. Shiny conduisit la vieille révérende mère jusqu'au banc de pierre, dans la corne acoustique, puis revint auprès de Stilgar.
« Afin que nous ne perdions pas tout si Jessica de l'art étrange venait à échouer, » dit Stilgar. « Shiny, fille de Liet, sera consacrée Sayadina. »
Puis il fit un pas de côté. Du fond de la corne acoustique, la voix de la vieille femme s'éleva. C'était comme un formidable chuchotement, rauque, pénétrant.
« Shiny est revenu de son Hajra. Shiny a vu les eaux. »
La foule psalmodia la réponse.
« Elle a vu les eaux. » « Je consacre Sayadina, la fille de Liet. » Elle est acceptée. » répondit la foule.
Paul ne prêtait que peu d'attention à la cérémonie. Il pensait à ce qui venait d'être dit à propos de sa mère. Si elle venait à échouer? Il se tourna vers celle que tous appelaient la révérende mère, examinant les traits anciens, le bleu sans fond des yeux. Il lui semblait que la brise la plus légère l'emporterait. Pourtant, il y avait quelque chose en elle qui suggérait qu'elle pouvait résister à une tempête Coriolis. Il émanait d'elle cette aura de puissance qu'il avait décelée chez la révérende mère Gaius Hélène Mohayam, lorsqu'elle l'avait soumis au test de souffrance du Gom Jabbar.
« Moi, révérende mère Ramalo, »
dit la vieille, dont la voix était comme celle d'une multitude,
« je te dis ceci.
Il est bien que Shaini soit accepté comme Sayyadina.
C'est bien, répondit la foule. La révérende mère hocha la tête et murmura
« Je lui donne les cieux argentés, le désert doré et ses rochers brillants, les champs verts qui seront. Je donne tout cela à la Sayyadina Shaini. Et pour que jamais elle n'oublie qu'elle est notre servante à tous, c'est à elle que reviennent les obligations domestiques de la cérémonie de la graine. Qu'il en soit ainsi selon le Shai Hulud. »
Elle leva un bras qui était comme un vieux bâton bruni et le rabaissa. Jessica eut l'impression que la cérémonie, tout à coup, était comme un courant violent qui l'emportait, lui interdisant de revenir en arrière. Elle ne put qu'adresser un regard à Paul, puis se prépara à l'épreuve.
« Que les maîtres d'eau s'avancent !» dit Shaini,
et dans sa voix de femme-enfant, il y avait une hésitation à peine perceptible. À cet instant, Jessica sentit le danger sur elle. Elle reconnut sa présence dans les regards, dans le silence. Un passage sinueux venait de s'ouvrir dans la foule et des hommes s'avançaient vers la terrasse. Ils allaient par deux, portant de petits sacs de peau qui se balançaient lourdement et qui étaient gros comme deux têtes d'hommes. Les deux premiers déposèrent leur fardeau aux pieds de Shaini et reculèrent. Jessica regarda le sac, puis les hommes. Ils avaient ramené leurs capuchons en arrière, révélant leurs longs cheveux noués en rouleaux à la base du cou. Leurs yeux sombres affrontèrent calmement son regard. Un lourd arôme de cannelle montait du sac. « L'épice ?» se demanda Jessica.
« Y a-t-il de l'eau ?»
demanda Shaini. Le maître d'eau qui se trouvait à sa gauche, celui qui avait une cicatrice rouge sur l'aile du nez, acquiesça.
« Il y a de l'eau, Sayyadina, mais nous ne pouvons en boire. »
« Y a-t-il de la graine ?»«
Il y a de la graine. »
Shaini s'agenouilla alors et posa ses mains sur le sac.
« Béni soit l'eau et la graine !»
Il y avait quelque chose de familier dans le rite, et Jessica regarda la révérende mère Ramalo. La vieille femme avait fermé les yeux et s'était recroquevillée, comme si elle dormait.
« Sayyadina Jessica !»
dit Shaini. Jessica se retourna et vit que la femme-enfant la regardait.
« Avez-vous goûté l'eau bénite ? » demanda-t-elle.
Avant que Jessica ait pu répondre, elle ajouta
« Il n'est pas possible que vous ayez goûté l'eau bénite. Vous n'êtes pas de ce monde et vous n'avez pas de privilèges. »
Un soupir courut dans la foule. Un murmure de robe qui fit naître un frisson en Jessica.
« La récolte a été bonne et le faiseur détruit !»
dit Shaini. Elle se mit alors à dérouler le tuyau fixé au sac. Le danger augmentait encore, songeait Jessica. Elle lança un regard à Paul et vit que, pris par le rite, il n'avait Dieu que pour Shaini. A-t-il entrevu ce moment dans le temps ? Se demanda-t-elle. Elle porta une main à son ventre, songeant à sa fille. Ai-je le droit de les mettre en danger tous les deux ? Shaini lui tendit le tuyau.
« Voici l'eau de la vie, celle qui est plus grande que l'eau. Kan, l'eau qui libère l'âme. Si vous devez être une révérende mère, elle vous ouvrira l'univers. Que Shai Hulud juge à présent. »
Jessica se sentait déchirée entre les obligations qu'elle avait envers son enfant à naître et son devoir à l'égard de Paul. Pour lui, elle le savait, il fallait qu'elle prenne ce tuyau et boive le liquide contenu dans le sac. Mais à l'instant où elle se baissait, tous ses sens l'avertirent du péril. Ce qu'il y avait dans le sac dégageait un parfum amer, à la fois proche et différent de bien des poisons de sa connaissance.
« Maintenant, vous devez boire, » dit Shaini.
« Il n'est pas de fuite possible, » songea Jessica. Et rien dans toute son éducation au Bene Gesserit ne lui donnait en cet instant de solution.
« Qu'est-ce donc ? »
se demandait-elle. Un alcool ? Une drogue ? Elle se pencha sur l'extrémité du tuyau, sentit les esters de cannelle et se souvint de l'ivresse de Duncan Idaho. Un alcool d'épices ? Se demanda-t-elle. Elle prit le siphon dans sa bouche et aspira une infime gorgée. Cela avait un goût d'épices, un peu âcre sur la langue. Shiny appuya alors sur le sac et une grosse goulée de liquide se déversa dans la bouche de Jessica. Elle ne put que l'avaler en s'efforçant de conserver tout son calme et sa dignité.
« Accepter une petite mort est pire que la mort, » dit Shiny.
Elle regardait Jessica, attendait. Et Jessica répondait à son regard, le tuyau toujours dans la bouche. Le goût du liquide était sur son palais, dans ses narines, ses joues, ses yeux. Un goût sucré, fraîcheur. À nouveau, le liquide se déversa dans la bouche de Jessica. Délicatesse. Jessica étudiait les traits de Shiny, lisait les traces de Liebkinds dans ce visage d'elfe, des traces que le temps n'avait pas encore fixées. « Ils m'ont donné une drogue », se dit-elle. Mais cela ne ressemblait à rien qu'elle eût déjà connu. Pourtant, l'éducation au Bene Gesserit comprenait la connaissance de bien des drogues. Le visage de Shiny était de plus en plus clair, comme dessiné par une intense lumière. Une drogue. Le silence tourbillonnait autour de Jessica. Par chaque fibre de son corps, elle acceptait ce changement profond qui survenait en elle. Il lui semblait être maintenant une particule infime et consciente, plus petite que la plus petite particule subatomique, mais pourtant capable d'émotion, de perception. Les rideaux s'écartèrent et elle eut la révélation abrupte d'une extension psychokinétique d'elle-même. Elle était atome sans être atome. Autour d'elle, la caverne subsistait. La caverne et les gens. Elle les sentait. Paul, Shiny, Stilgar, la révérende mère Ramalo. La révérende mère. À l'école, certaines rumeurs prétendaient que, parfois, on ne survivait pas à l'épreuve de la révérende mère, que la drogue vous emportait. Elle concentra son attention sur la révérende mère Ramalo, consciente que tout ceci se produisait en un bref instant figé, un fragment de temps suspendu pour elle seule. « Pourquoi le temps est-il suspendu ?» se demanda-t-elle. Elle contemplait tous ces visages figés autour d'elle. Un grain de poussière était suspendu, immobile, au-dessus de la tête de Shiny. Il attendait. La réponse lui vint alors, et ce fut comme une explosion dans sa conscience. Son temps personnel était suspendu pour qu'elle sauve sa vie.